La langue française est quand même bizarre.
Bonjour et bienvenue sur RAB, Radio Alliance Brisbane, le podcast de l'Alliance Française de Brisbane. Jérôme et moi-même, Damien, avons le plaisir de vous accueillir pour le 4e épisode de ce podcast. Dans cette émission, nous vous proposerons une rubrique rugby pour vous présenter la prochaine Coupe du Monde, suivie de carnet de voyage avec la présentation du système V-Love à Lyon. Entre ces rubriques, vous retrouverez bien entendu nos interludes réguliers, Pourquoi apprenez-vous le français et le questionnaire de Proust. Comme à notre habitude, une page musicale viendra entrecouper ce podcast avec notamment un clin d'œil à la finale de la dernière Coupe du Monde de football perdue par la France. Nous conclurons cette émission par le 3e épisode du Mort des Tiercerie, le feuilleton radiophonique enregistré par l'Alliance Française du Manitoba au Canada. Enfin, vous pouvez toujours nous faire part de vos remarques en nous écrivant à podcast@afbrisbane.com. La prochaine Coupe du Monde de rugby se déroulera entre le 7 septembre et le 20 octobre 2007. La France et l'Australie, toutes les deux qualifiées, évolueront respectivement dans les poules D et B, avec pour adversaires d'un côté l'Irlande, l'Argentine et deux autres qualifiés, et de l'autre côté le Pays de Galles, les îles Fidji, le Canada et un autre adversaire inconnu pour le moment.
C'est fini, l'équipe de France est en finale!
Les deux autres poules, les poules A et C, seront respectivement composées de l'Angleterre, l'Afrique du Sud, les îles Samoa, ainsi que deux autres qualifiés, et de la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, plus trois autres adversaires.
Nouvel essai pour l'équipe de France !
La France a l'honneur d'être le pays organisateur de cet événement planétaire. Elle sera cependant épaulée par le Royaume-Uni. En effet, le Pays de Galles et l'Écosse ont été retenus pour accueillir quelques matchs de la compétition. Ainsi, sur les 48 rencontres de la Coupe du Monde, 42 matchs se joueront en France, 4 se dérouleront au Millennium Stadium de Cardiff, dont un intéressant Pays de Galles-Australie, et 2 à Murrayfield, à Édimbourg. En France, 10 villes et donc autant de stades ont été choisis pour accueillir les rencontres.
Il revient à l'intérieur, oui, ça va aller au bout!
La répartition géographique au sein de la France est assez homogène. Cependant, 6 villes sont plus réputées pour leur passé footballistique que pour les prouesses de leur club de rugby. Parmi elles, on retrouve Nantes avec son stade de la Beaujoire, Lens avec le stade Félix Bollard, Lyon et le stade Gerland, Saint-Étienne et le stade Geoffroy Guichard, et enfin Marseille avec son stade Vélodrome. Du côté des villes qui possèdent une culture du rugby plus marquée, on retrouve Bordeaux et le stade Chaban-Delmas, Montpellier avec le stade de la Mosson, Paris et le Parc des Princes, et enfin Toulouse avec son stadium. Enfin, la ville de Saint-Denis avec le Stade de France complète la liste. Cette dernière accueillera notamment le match d'ouverture et la finale de la compétition.
Et c'est pour les Australiens.
À l'Alliance Française de Brisbane, nous préparons également la Coupe du Monde de rugby. Nous allons ainsi organiser de septembre 2006 à septembre 2007 un ensemble de manifestations sur le rugby. Nous vous proposerons dans le désordre une exposition photo des premiers joueurs de rugby et des grands moments du rugby franco-australien. Cette exposition sera réalisée avec l'aide de l'Australian Rugby Union et de l'Alliance Française de Sydney, et se déroulera au début du mois de février 2007. La date exacte et le lieu vous seront précisés ultérieurement. Nous vous proposerons également une rediffusion des matchs les plus marquants du 15 de France, à savoir les deux demi-finales des Coupes du Monde, 1987 et 1999, Australie-France et France-Nouvelle-Zélande, mais aussi la finale de la Coupe du Monde 1999, remportée par l'Australie. Plusieurs soirées à thème durant lesquelles nous vous présenterons chaque région et ville accueillant la Coupe du Monde seront également au programme.
C'est fini, l'équipe de France est en finale.
À cette occasion, vous pourrez découvrir les lieux touristiques à visiter, un documentaire vidéo présentant la région, mais également déguster des produits régionaux. Enfin, des personnalités du monde du rugby seront invitées à parler rugby à l'Alliance Française de Brisbane. La bibliothèque de l'Alliance Française de Brisbane profite aussi de la Coupe du Monde de rugby pour se développer et agrandir sa collection d'ouvrages sur le rugby. Venez y découvrir, dès leur arrivée, entre autres, le Dictionnaire amoureux du rugby de Daniel Herrero, 100 ans du rugby bleu de Richard Esco, Rugby Guide, guide français et international de François Duboisset. Enfin, l'Alliance Française de Brisbane organise un programme de cours de français de 20 heures pour les Australiens désireux de se rendre en France durant la Coupe du Monde de rugby. Vous pourrez y préparer votre visite en France, enrichir votre vocabulaire en termes rugbystiques et profiter encore plus de l'occasion.
Il va aller marquer un nouvel essai, essai pour l'équipe de France. C'est fini.
Tu restes pas avec moi. Et pourquoi tu t'en vas? Pourquoi la vie et les bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Pourquoi les avions s'envolent bien plus haut que les oiseaux? Pourquoi que les étoiles sont-elles là-haut suspendues? Et pourquoi le ciel est-il si haut? Pourquoi alors? Jour s'en va, tourne et tourne et ne s'arrête pas. Et un autre jour s'en va. Et dans cette petite vie, je voudrais pas crever l'ennui. Pourquoi même les nuages ne pas rester ici? Si j'étais eux, je marcherais vite. Je ferais pas d'économie. Et un autre jour s'en va. Tourne et tourne et ne s'arrête pas. Et un autre jour s'en va. Cette petite vie, je voudrais pas crever l'ennui.
Quel est votre principal trait de caractère?
Je suis honnête et optimiste et je suis quelqu'un de très dynamique.
Quelle est votre occupation préférée?
J'aime bien m'asseoir avec un bon livre et y rester plongé des heures sans penser à rien d'autre. Et aussi j'adore dormir.
Quel est votre principal défaut?
Je suis impatiente.
Quelle est votre principale qualité?
Je suis polie.
Que détestez-vous par-dessus tout?
J'ai horreur de l'injustice et de la bêtise.
Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir?
J'aimerais pouvoir modifier le temps qui passe et rendre les journées plus courtes ou plus longues selon les besoins.
Quel est votre livre de chevet?
En ce moment, je n'en ai pas, mais si j'en avais un, ce serait Ma vie, l'autobiographie de Jane Fonda.
Quel est votre film phare ?
Forrest Gump.
C'était un endroit où vous aimez vous rendre en France ?
La promenade du pain de sucre chez moi à Saint-Pierre-et-Miquelon, un dom-tom perdu en Amérique du Nord.
Votre devise ?
Demain est un autre jour.
Mais qui êtes-vous ?
Je m'appelle Marielle Eudes et je suis prof de français à l'Alliance.
Merci.
Mes séjours épisodiques en France, en général une fois par an, me permettent de prendre un peu de recul par rapport à l'Hexagone. J'ai parfois l'impression de pouvoir mieux observer ses évolutions et ses tendances. Je vous propose donc de partager, dans cet épisode de RAB, mon carnet de voyage. Le mois de juillet en France a bien sûr été marqué par la Coupe du Monde de football. Tout comme en 1998, la France s'est soudain découverte une passion pour le ballon rond. Voici une petite anecdote qui illustrera mon propos. Un couple d'amis australiens et leurs enfants ont décidé de s'installer en France. Nous les avons accueillis à Lyon et les avons conduits jusqu'à la maison qu'ils louaient. Nous avons alors découvert que la location ne comprenait pas de service, c'est-à-dire pas de vaisselle, pas de linge et pas de télévision. Le gérant nous a bien fait comprendre qu'il serait difficile de trouver en quelques heures assiettes, couverts, serviettes de toilette, etc. Quand nous lui avons annoncé que nos amis étaient australiens, il a trouvé un téléviseur en 10 minutes. Nous étions le lundi 26 juin, jour du match Australie-Italie. La France et l'Australie partagent donc le triste fait d'avoir été battus par l'Italie lors de cette Coupe du Monde. De la finale, on retiendra bien sûr le fameux coup de sang de Zidane, coup de boule pour être plus précis. Nous ne reviendrons pas ici sur l'incident, mais dans le florilège de blagues, de films, de photomontages qui sont apparus sur Internet, voici un petit extrait du tube de l'été, dont des dizaines de milliers de copies ont rapidement trouvé acheteur. Écrit dans la nuit du 9 au 10 juillet, ces auteurs avouent avoir voulu rapidement apaiser leur déception.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche.
Allez les bleus, allez.
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé.
Leur Italie l'a eu mal.
Zidane il a frappé.
L'Italien ne va pas bien.
Zidane il a tapé.
L'arbitre l'a vu à la télé.
Zidane il a frappé.
Mais la coupe on l'a raté. On a quand même bien rigolé.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Trezeguet n'a pas joué.
Quand il a joué, il a raté.
Il a tout fait capoter.
La coupe on l'a raté. Martès n'a rien arrêté.
Mon dernier séjour en France datant d'avril 2005, je m'attendais à retrouver la France telle que nous la présentent les médias. Manquant de dynamisme, vieillissante, parfois même sclérosée. La vieille Europe. Au lieu de cela, le soleil estival y est certainement pour un peu, j'ai rencontré des interlocuteurs aimables, souriants et serviables. J'ai aussi, et surtout, trouvé une France innovante, souvent à la pointe de la technologie et du service. Au-delà d'un Internet à très haut débit, si, vous savez, celui que Telstra a laissé tomber il y a 3 semaines, disponible très largement par point Wi-Fi, comprenez Wi-Fi, et autres réseaux 3G, je vais donc vous donner un exemple qui, pour moi, témoigne de cette vivacité. La municipalité de Lyon a mis en place, il y a de cela 1 an environ, un système de prêt de vélo que je n'avais vu nulle part ailleurs, et dont j'ai trouvé l'efficacité et l'ingéniosité remarquables. À Lyon donc, pour 1 euro la semaine, 5 euros par an, vous pouvez vous abonner au système Vélove. Une carte magnétique vous est délivrée qui vous permet de retirer un vélo dans une station en un point A et de le rendre dans une autre station en un point B. Si les systèmes de prêt ou de location de vélo existent ailleurs, y compris à Brisbane, c'est la première fois que j'en rencontre un d'une telle ampleur. En effet, ce sont près de 200 stations qui ont été aménagées, en moyenne distantes les unes des autres de pas moins de 300 mètres. Au total, plus de 3000 vélos sont à la disposition des utilisateurs. Dans un bilan effectué en juillet dernier,
la ville de Lyon annonçait plus de 50 000 abonnés au système. Quelques 22 000 mouvements de vélo par jour. Et tenez-vous bien, plus de 6 millions de kilomètres effectués en un an. C'est autant de déplacements qui n'ont pas été faits en bus, en métro ou pire, en voiture. En plus d'être le moyen de transport le plus agréable, le vélo devient donc le moyen de transport le plus facile, le plus fiable et le plus rapide. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les files d'attente pour retirer un vélo devant la gare de la Part-Dieu à la descente du TGV. Capitale du football, Lyon deviendra-t-elle aussi la capitale du vélo ? Je vous invite à visiter le site www.velove.grandlyon.com pour vous faire votre propre opinion.
Pourquoi apprenez-vous le français ?
Pour mon travail, j'ai un projet en Nouvelle-Calédonie et c'est un département d'outre-mer.
La pièce que vous allez entendre vous est présentée par l'Alliance française du Manitoba en collaboration avec le studio d'Acapo.
Le monde des tiercerés.
Mystère radiophonique destiné aux apprenants francophones.
Résumé de l'épisode précédent. Suite à la mort de Monsieur Jacques de Villeray, l'inspecteur Michel Claverie constate le crime et délivre son rapport d'enquête. Il découvre tout d'abord, à côté de la victime, un couteau suisse dont la lame est déployée, ainsi qu'une vieille montre Swatch indiquant 6h25. Il trouve ensuite une coupe de champagne brisée qui contient un mélange de champagne, d'arsenic et de soude. Il observe également que le dentier de la victime est rongé sous l'effet de l'arsenic. La clé de la pièce du crime est découverte dans les poches de la victime ainsi qu'une autre coupe et une bouteille de champagne pleine sur la cheminée. Seules les empreintes de Monsieur Jacques de Villeray sont retrouvées dessus. Enfin, en guise de dernier indice, l'inspecteur Claverie remarque deux empreintes de pas différentes qui reste à identifier.
Le rapport de Michel Claverie était accompagné des dépositions des cinq suspects. Tous étaient dans le manoir dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier, lorsque M. de Villeray a été assassiné.
J'ai aussi interrogé les témoins. Madame Anaïs de Villeray, parisienne, 67 ans, veuve de Jacques de Villeray. Rentière, dit être allée se coucher le 21 janvier après avoir terminé son
tricot dans le petit salon à 9h et je suis allée me coucher vers 11h15. Je ne me souviens n'avoir rien vu et rien entendu. Ce n'est que le lendemain matin quand j'ai aperçu l'absence de mon mari. J'ai commencé à chercher à partir de 9h. J'ai téléphoné à quelques amis sans résultat. Un quart d'heure après, peut-être, j'ai questionné mon domestique et ma femme de chambre. Ils n'en savaient rien. J'ai demandé à Mme Guérin d'inspecter le manoir et j'ai appelé plusieurs collègues de M. de Villeray. Mme Guérin m'a appelé pour me dire que la clé de la petite chambre de la Tour Noire avait disparu. J'ai sommé Erwan Louan d'en forcer la porte. Vous connaissez la suite?
Mme Béatrice Guérin, polonaise, 55 ans, divorcée, mère d'une fille de 23 ans en vacances chez sa grand-mère depuis une semaine. Femme de chambre au service de M. et Mme de Villeray depuis 7 ans. Le 21 janvier, Mme Guérin dit être allée se coucher
après avoir regardé un film télévisé vers 22h50. Juste avant de prendre mon service, je me souviens avoir croisé M. Jean-Baptiste Campbell dans les escaliers, complètement ivre. Ce matin, M. Louard n'a eu la bonté de venir m'aider. C'est simplement à 9h20 que j'ai vu Mme de Villeray. Elle semblait angoissée. Elle cherchait son mari et m'a demandé de l'aider. J'ai dû chercher 30 minutes avant de me rendre compte que la clé de la petite chambre de la Tour Nord n'était pas dans la serrure. La porte était pourtant fermée. Lorsque Mme de Villeray m'a interpellée, je lui ai dit que je n'avais rien découvert, si ce n'est que la clé avait disparu. Mme de Villeray est allée constater mes dires et je l'ai suivie accompagnée de M. Louarn. Il devait être 10h25 lorsque nous avons pénétré dans la chambre. Monsieur de Villeray était mort.
Monsieur Erwan Luaon, breton, 51 ans, célibataire, domestique au service de Monsieur et Madame de Villeray depuis 15 ans. Monsieur Luaon affirme être allé se coucher après son service.
Je suis rentré dans ma chambre vers 21h. Ensuite, j'ai lu pendant 2 heures environ avant de m'endormir. Le lendemain matin, j'ai pris mon déjeuner à 6h et ensuite je me suis installé à la salle à manger pour briquer les couverts en argent. Vers 8h, j'ai rejoint Madame Guérin pour l'aider au repassage. Vers 10h15, Madame de Viray m'interpelle. Elle était en compagnie de Madame Guérin et elle était très bouleversée. Madame de Viray m'a demandé d'enfoncer la porte de la petite chambre de la tour nord. Naturellement, je n'ai pas voulu me soumettre à sa demande. Une si belle porte. Finalement, quand elle a persisté, j'ai défoncé la porte et ensemble, on a découvert le corps de Monsieur de Viray.
C'est la fin de cette émission, nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain, où il sera une nouvelle fois question de rugby. À bientôt.